Depuis quelques années, les écrans ont envahi nos vies. iPhone, tablette, ordinateur, ils sont partout, à la maison comme au travail. Dans ce nouveau conseil de famille, vous l'aurez compris, nous allons nous interroger plus particulièrement sur la place de ces écrans dans la vie des plus jeunes. Ces écrans sont-ils là véritablement pour nous aider à mieux communiquer ? Quels sont les dangers des écrans sur les enfants ? Et pourra-t-on parler de bénéfices ? Peut-on parler aussi d'addiction aux écrans ou pour certains d'usage excessif ? Eh bien, pour juger de tout ça avec moi dans ce studio, Anne-Marie, coordinatrice du PRE à l'ODEV, le programme de réussite éducative. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Laurence.
Et Béatrice Alvard, psychologue à l'école des parents et des éducateurs. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Et on va démarrer tout de suite ce conseil de famille avec le témoignage de Colin, 5 ans.
Parfois oui, parfois non.
Ah bon, parfois oui, pourquoi ?
Parfois oui, parce que je suis fatiguée. Parfois c'est parce que je suis plus fatiguée.
Mais c'est-à-dire, alors, t'aimes bien les écrans quand tu es fatiguée ou quand t'es pas fatiguée ?
Quand je suis fatiguée.
Quand t'es fatiguée, t'aimes bien regarder les écrans ?
Mmh.
Et qu'est-ce que tu regardes comme écran ?
Ça dépend des films.
D'accord, tu regardes des films.
C'est ça, des dessins animés et des films, quoi.
D'accord, et est-ce que tu regardes l'ordinateur ? Est-ce que tu regardes des portables ? Est-ce que tu
L'ordinateur
regardes...
est aussi un peu portable de ma mère.
Qu'est-ce que tu regardes sur le portable de ta mère ?
En fait, il y a des petits jeux, comme je sais son code.
Ah, comment tu sais son code ?
Ben en fait, un jour, elle a oublié de pas le dire à la diarote.
Ah, carrément.
Pour le dire à papa. J'ai retenu et après j'ai essayé.
Et ça a marché ?
Oui.
T'aimes bien jouer au jeu ?
Oui, ça va.
À quoi tu joues ?
En fait, il y a un jeu des voitures, on joue des monstres. Il y a plein de jeux. Du coup, et je joue avec, quoi.
Et est-ce que tu aimerais avoir des écrans plus tard ?
Oui.
T'aimerais avoir quoi en priorité ?
Ben, moi, j'aimerais avoir un téléphone.
Une tablette. Ouais.
À quel âge le téléphone ?
Je sais pas... À 13 ans.
13 ans, le téléphone.
Mmh.
D'accord. 13 ans, on rentre en quatrième à peu près.
Oui, bah, 13 ans.
Voilà, il est fort le petit Colin. Il a entendu le code de sa maman. Il l'a refait. 5 ans, hein, je précise quand même.
Ouais, 5 ans.
Béatrice, tu disais que tu avais des réactions par rapport à ce témoignage.
Oui, alors déjà de dire à quel point les écrans exercent une fascination, y compris... au tout jeune âge et au point d'arriver à attraper au vol le code de sa maman. Autre chose aussi qui m'a fait réagir, c'est quand il disait, quand il parlait de la question de la fatigue. Et ta question était très pertinente, Laurence, quand est-ce qu'il est fatigué ? Enfin, qu'est-ce qui le fatigue ? Donc, il disait qu'effectivement, quand il était fatigué, c'est là où il faisait des écrans.
Oui.
Donc, ça montre bien qu'il y a une forme de passivité aussi, pas seulement, hein, mais que les écrans peuvent être utilisés pour se distraire dans une forme de passivité. Mais pas seulement. Après, il a parlé de jeux, etc., où là, on est plus actif. Et où, au contraire, ça va stimuler. Donc, il y a toutes sortes de façons d'utiliser les écrans. Et pour nous, parents, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, effectivement, tout de suite, là, on pense qu'au moment du coucher, par exemple, au moment d'aller se coucher, les écrans, bon, même si c'est sous forme de distraction avec des dessins animés, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ça stimule quand même s'il y a de la passivité. Et c'est encore moins indiqué si c'est des jeux où on est actif.
Voilà, puis je crois qu'il y a aussi une question d'âge, hein, c'est très très important. On en parlera après, mais je voulais tes réactions, Anne-Marie, sur ce témoignage.
Bah évidemment, un petit garçon, 5 ans, qui attrape en vol le code du téléphone pour pouvoir finalement, on entend derrière, aller en cachette. Aller sur le téléphone un petit peu, hein, donc On entend derrière aussi un peu qu'on est presque plus maître de tout ça, que voilà, à quel âge, quand, comment, combien de temps.
Les parents, il y a quelque chose qui nous échappe hein, complètement. Hein. Mmh. Ils sont bien plus en avance que nous sur les écrans. On dit qu'ils sont nés avec ça dans les mains. Oui. Moi, je peux pas m'empêcher de réagir sur l'histoire du contrôle parental. Alors déjà, le code devrait en être un. Je dis bien devrait.
Tout à fait, c'est ce qu'on dit, c'est que là déjà il y a le secret,
il y a une défaillance,
quoi. Enfin, le petit garçon là, voilà, donc il fait ça en cachette, il sait le code, il prend le téléphone, il se cache quelque part et on ne sait pas du tout ce qu'il fait sur le téléphone, je pense à cette maman ou ce papa à ce moment donné qui pense que le téléphone est dans la cuisine et qu'il ne sait pas du tout sur quoi est l'enfant. 5 ans, donc ça peut être potentiellement quand même une exposition à des images, à des choses qui ne sont pas du tout de son âge. Et oui, contrôle parental, mais ce n'est pas si simple que ça, finalement.
Tout à fait, tout à fait. C'est là où on voit effectivement les limites du contrôle parental.
Voilà, alors en termes de contrôle parental, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, bien sûr, il y a des dispositifs
plus technique, plus efficace.
Voilà, plus tout à fait, plus efficace, plus technique. Alors, il y a beaucoup de parents qui nous disent, mais je ne sais pas le mettre, moi, le contrôle parental. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau?
Alors, moi, j'ai envie de dire que pour les moyens plus efficaces et plus techniques. Je me sens tout à fait en accord avec les parents à qui ça échappe. Donc, je favoriserai plus le dialogue avec son enfant, l'attention qu'on lui porte. Parce que la maman, même si, comme on disait en rigolant, il a attrapé ça au vol... Elle est quand même en mesure, elle n'est pas dupe, certainement, elle est certainement en mesure de s'être aperçue que son petit garçon lui avait échappé à ce niveau-là. Donc, moi, je suis plus partisane de l'attention, du dialogue, des échanges avec son enfant pour mettre des limites plutôt que d'être dans cette espèce de contrôle parental qui me... Voilà, ça me... Je comprends effectivement et ça a son utilité. Mais voilà, moi, je suis plutôt dans ce versant-là.
Ses limites aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle parental qui, à ce jour, est infaillible.
Tout à fait.
Ça ne dédouane pas le parent de rester vigilant. Donc, il faut faire attention. Il y a des outils qui existent. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus simples et d'autres plus complexes. Et tout dépend de l'outil aussi. Et donc, de favoriser l'éducation à l'outil et le partage. Je veux dire, on peut jouer à un jeu avec son enfant et lui expliquer qu'il y a des choses qui ne sont pas de son âge. Et si jamais il est confronté à des choses, qu'il puisse en parler en toute sécurité avec ses parents pour reprendre. Parce que... aucun outil permet aujourd'hui de protéger complètement des images potentiellement violentes ou pas de leur âge ou qui peuvent choquer, etc. Ou voilà. Donc c'est vraiment effectivement, je suis d'accord avec Béatrice sur ce point-là.
Il y a toute une éducation aux écrans qui est à faire de la même manière qu'on éduque son enfant à traverser la route. À manger correctement, voilà, ouais. De cette même manière, on peut aussi éduquer son enfant face aux écrans.
Mais c'est pas facile puisque nous, on n'est pas nés avec ces écrans-là. Nous aussi, on a nos limites dans l'utilisation de ces nouveaux outils qui nous met en difficulté. On comprend pas tout sur les réseaux sociaux, on les utilise pas tous. Enfin, tout ça, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Donc voilà, je pense que c'est une question quand même difficile.
Oui, Béatrice.
Certes, c'est une question difficile parce qu'on n'est pas du tout de la même génération et pas du tout avec le même rapport avec ces choses-là. Mais je pense que, de façon plus générale, c'est pareil pour tout ce qui concerne l'éducation. On n'est pas les parents que nos parents ont été. Ce ne sont pas les enfants que nous avons été. Et le monde dans lequel on est né, on a grandi, n'est pas le même. Donc, ben voilà, les écrans, ça fait partie de ça aussi.
Oui, oui, ça fait partie de ça aussi. Mais c'est vrai que ce qui change aujourd'hui, c'est que le monde change beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on avait des changements qui s'opéraient plus lentement dans le passé. Et là, on a vraiment un boom de numérique qui même les plus jeunes presque sont déjà... Les plus jeunes parents, on va dire, sont presque déjà dépassés. Donc, je me dis que vraiment, c'est encore un peu plus difficile que les autres questions.
D'où l'intérêt de bien être sur ce qu'on se disait là, dans le dialogue, dans l'échange, dans le partage avec nos enfants, parce que de toute façon, on sera toujours dépassé,
et encore plus
avec la vitesse à laquelle, comme tu dis, ces outils évoluent. Donc voilà, ce qui reste peut-être intemporel, c'est ça, c'est le dialogue, le partage et les échanges entre les parents et les enfants.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça.
Au-delà de ça, il y a quand même des petites règles de base relativement simples que l'on peut rattacher à l'âge de l'enfant. Il y a le psychiatre Serge Tisseron qui s'est penché sur cette question depuis un bon moment, qui a sorti des ouvrages et un ouvrage de référence dans lequel il donne des conseils assez simples sur l'utilisation des écrans avec ce qu'il appelle la règle des 3, 6, 9, 12. Ou par exemple, on dit qu'avant 3 ans, il ne doit pas y avoir d'écran du tout.
Oui. Ça, c'est basé vraiment sur des études. Alors, c'est d'abord les Québécois qui ont fait des études et des études très probantes avec des conséquences sur le développement des enfants
au niveau neurologique
qui pose question vraiment. Donc il faut être très très attentif. C'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience quand on est parent. C'est pour ça que les spécialistes ont tendance, là, cette fois sur ce point-là, à être assez catégoriques. Entre 0 et 3 ans, clairement, c'est pas bon du tout pour le cerveau des enfants qui est à ce moment-là extrêmement immature. Bon, ils continuent à maturer jusqu'à 25 ans. Mais en particulier, on sait très bien que entre 0 et 3 ans, un bébé, un nourrisson, il est extrêmement vulnérable, fragile, en même temps qu'il est formidablement solide aussi par ailleurs. Mais au niveau de son développement et en particulier cérébral, il faut faire très attention.
Voilà, alors là, c'est l'utilisation des parents aussi par rapport aux écrans. Tu me disais tout à l'heure, hors studio, que tu avais rencontré des mamans qui allaitaient et qui étaient sur leur portable en même temps. Voilà, donc forcément, ça se voit beaucoup. On retrouve des enfants qui sont face à des écrans sans les utiliser, mais de manière assez passive. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur quotidien. Et pourquoi ils ne toucheraient pas l'écran et pourquoi ils ne finiraient pas par comprendre très vite comment on l'allume. Et on voit des tout petits qui déjà font glisser comme ça sur les écrans. Là. Peut-être même avant de parler, ils passent leurs doigts comme ça. Ils ont très vite compris que...
Ils attrapent le Bluetooth.
Ah oui, c'est ça. Ils ont très vite compris la manipulation. En parlant de Bluetooth, on va écouter Feu Chatterton avec Un monde nouveau tout de suite.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Amour. Nous rêvait tous, que savions-nous faire de nos mains? éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Voilà, pour poursuivre sur les fameux âges de Serge Tisseron, la psychiatre 3, 6, 9 pour les limitations ou l'éducation aux écrans. Anne-Marie, que tu voulais parler aussi des réseaux sociaux après 12 ans.
Oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est très à la mode, hein, et pour les ados, avec ses lots de bonheur, on va dire, pour eux, et le lot de malheur aussi. Je crois qu'il faut rappeler quand même la loi un petit peu là-dessus, hein. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans, à 13 ans avec autorisation parentale et 15 ans sans autorisation parentale. Mais c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'il n'y a pas de danger. Donc il faut rester quand même très très attentif à ce qui publie, à ce qui se passe.
Tu penses à quel réseau social, par exemple ? Tu penses à TikTok, par exemple, quand tu parles
Insta,
de publier ?
Insta, voilà, y en a plein. Hein. Enfin, Facebook, ils y sont plus dessus. Hein. Ça, c'est pour les dinosaures.
Non, ça, c'est pour nous, ça.
Comme ils disent, voilà, pour les périmés.
Et oui, pour les yeuves.
Voilà, ils ont leur façon de parler aussi. Hein. Effectivement, mais il y a aussi Snap, hein, où c'est peut-être un des plus dangereux, parce que les choses disparaissent. On ne peut pas forcément retracer ce qui a été dit, ce qui a été fait.
C'est les fameuses stories de 24 heures.
C'est ça, hein, c'est extrêmement volatile, on va dire, mais n'empêche que beaucoup de mal peut être fait. Oui. Et on ne s'en rend pas forcément compte de suite.
Ils se gardent bien de nous le dire.
Ils se gardent bien de nous le dire. Ils sont dans un monde virtuel où aussi, par moments, ils pensent que c'est virtuel, quoi. Mais non, on fait réellement mal à quelqu'un chez lui. La vigilance à ces réseaux, je pense qu'il doit être vraiment très important au jeune âge qu'ils ont, et que ça vraiment, encore une fois, de pair avec l'éducation et l'explication de le danger de ces outils aussi.
Alors, oui, Béatrice, tu voulais réagir.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Anne-Marie, par rapport au fait que, à la fois, ça peut être éphémère et de l'ordre du harcèlement. Et il y a d'ailleurs une association qui s'occupe du harcèlement en ligne.
Du cyberharcèlement
qui a été qui existe maintenant depuis quelques années.
C'est puni par la loi.
Et aussi, ce que met bien en valeur Serge Tisseron, le pédopsychiatre ou le psychiatre, je ne sais plus. Oui, je crois qu'il est psychiatre, dont tu as parlé tout à l'heure. Qui est que ils n'ont pas forcément conscience que ce qui va sur Internet, sur le cloud, tout ce qu'on appelle le cloud, c'est quelque chose qui n'a pas de limite au niveau du temps et de l'espace.
Alors, je crois que le cloud, si je peux me permettre, oui, c'est un espace où on met des choses, mais on enregistre des choses. Mais tu voulais peut-être dire sur la toile.
Oui, plutôt. Voilà. Oui, c'est là où je pêche par mon ignorance. Merci, Laurence.
C'est difficile, tous ces mots. Hein. Non, mais c'est, effectivement.
Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les parents et nous-mêmes... Hein, comment ça se fait qu'on a aussi peu d'informations? Vous ne trouvez pas qu'on a très peu d'informations? Je trouve que l'État ne prend pas suffisamment sa place en termes de prévention. C'est très difficile de trouver des associations qui viennent parler des écrans. Ça existe, hein, bien sûr, heureusement. Elles viennent dans les collèges, certains lycées. Mais c'est difficile quand même d'avoir des renseignements très clairs. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'interdiction d'avoir des réseaux sociaux avant 15 ans. Mais qui le sait, ça? Tous les jeunes, 12, 13 ans, ceux qui ont des portables, ils sont déjà sur Snapchat, ils ont TikTok, etc.
Je pense même que les parents ne le savent pas et ignorent aussi la loi et justement...
Mais peut-être la loi n'est pas très bien transmise, pas très claire, pas très voyante.
Nul ne doit ignorer la loi.
Oui, nul n'est censé ignorer la loi.
Voilà, c'est ça la phrase que je cherchais. Mais en plus, il peut y avoir des conséquences pour les parents. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont légalement responsables. S'il a 13 ans et qu'il fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il peut être convoqué à la gendarmerie. Les parents peuvent avoir des conséquences quand même face aux actes de leurs enfants. Donc c'est effectivement pourquoi on est si peu informé, pourquoi... C'est une très bonne question, hein. J'ai pas la réponse. Hein.
Tu vas avoir 12 ans et tu disais que t'étais un des seuls de ta classe à pas avoir de portable.
Ouais, sur 31 même, on est que deux à ne pas avoir de téléphone, moi et Romane.
Et je te demandais pourquoi.
Pourquoi ? Parce que nos parents sont très bobos. Et du coup,
ça veut dire quoi, bobo?
Pour la biodiversité, pour ne pas avoir des ondes, pour tout ce qui est chimique, on n'en veut pas, beaucoup de plantes.
Tu crois que c'est pour ça?
Ouais.
Parce qu'ils pensent que le...
Parce que le truc, il envoie trop de ondes. Et
parce
aussi,
que c'est pas bon pour la santé?
Ouais. Ah bon. Et aussi parce qu'ils voulaient faire un peu comme à l'âge où ils ont eu leur premier téléphone. Bon, eux, j'imagine qu'ils ont dû avoir au lycée un téléphone à clapet. Voilà.
Toi, t'aimes bien les écrans?
Alors, non. En fait, moi, c'est juste, je sais que... Beaucoup de gens sont comme ça. C'est juste l'effet d'avoir un téléphone pour montrer à tout le monde que t'as bien un téléphone. Et voilà.
Bah, à quoi ça sert de montrer à tout le monde?
Rien, y a aucun intérêt. C'est juste pour dire que t'as un téléphone. Parce que sinon, t'as pas de téléphone, t'as rien.
En gros. Tu penses que ça rend intéressant d'avoir un téléphone?
Ça rend intéressant, beaucoup plus intéressant. Y a tout le monde qui met dans sa poche arrière, là, pour faire l'intéressant.
Ah bon?
Ouais.
Toi, tu feras pareil?
Ouais, je pense.
Et alors, justement, si t'as pas de téléphone, peut-être que toi, tu vas te démarquer de tous les autres.
C'est pour ça que je veux avoir un téléphone.
Ah, pour faire comme les autres, finalement.
Voilà, c'est ça.
Et te démarquer des autres, c'était pas intéressant.
Non. Et alors, comme ça, au moins, si je pars en bus ou quoi, je peux être plus sécurisée avec un téléphone. Je peux vous appeler, je peux appeler des amis. S'il y a un problème, j'appelle quelqu'un, j'envoie un message.
T'appelles tes parents, des trucs comme ça, c'est ça?
Ouais.
Tu penses, ça te sécuriserait d'avoir un téléphone?
Ouais, beaucoup plus.
Ah bon? Et le fait de pas avoir de téléphone
Déjà, ça me sécurise un peu moins. Bah après, c'est pas trop grave, mais bon, voilà. Et je me sens plus différent. Et j'aimerais bien être commun, tu vois. Voilà.
Voilà, c'est ça. Si t'as pas de téléphone, t'as pas de vie, quoi. C'est voilà, t'as bien compris. Il fallait le mettre dans la poche arrière. Et de préférence, je ne dirais pas les marques, mais bon, si t'as un téléphone à clapper, alors là.
C'est complètement has-been.
Et être commun.
Hein. Oui, surtout alors bon, c'est l'âge, hein. Il a 12 ans, il faut essayer de rentrer dans cette espèce de moule.
Oui.
Et on entend bien que ne pas avoir de portable, cette différence, elle est quasi insupportable là.
Tout à fait, on entend très très bien et très fort cette pression sociale finalement.
Et oui, complètement.
Et en plus, à cet âge-là, ils veulent tellement se rentrer dans le moule, comme on dit, ils veulent pas être différents, ils veulent surtout pas se démarquer. Et évidemment, du coup, de pas avoir de portable, on est différent, quoi.
Faire comme les autres.
En entendant ce garçon qui a 12 ans, hein, c'est ça?
Oui, il vient d'avoir 12 ans.
Il vient d'avoir 12 ans. Je me dis que... Et pour le voir aussi par rapport à tous les ados que je vois, mais des adultes aussi, hein, que le téléphone, il a un aspect un peu, comme on appelle, d'objet transitionnel. de doudou. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, quand on l'a plus, quand on l'a pas, on se retrouve comme le bébé ou le petit enfant
perdu.
Qui a perdu son doudou et qui est complètement paumé, qui est insécurisé. Une fois, j'avais vu une ado comme ça. C'est comme si son téléphone était greffé à sa main. C'est-à-dire qu'elle essayait de remonter sa veste, la fermeture éclair de sa veste, avec le téléphone à la main. Donc, je lui dis peut-être, je suggérais que si tu le posais, ça faciliterait la tâche pour remonter ta fermeture éclair.
Dans les entretiens, quand même, quand vous recevez des jeunes, est-ce que ils sont en train, en plus, de manipuler leur téléphone ou est-ce qu'ils arrivent à le poser, quand même ?
Parfois, il faut leur... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis, oh, dis donc, hein, c'est important pour toi, hein, ce téléphone. Hein. Même là, quand on est tous les deux à passer un moment un peu privilégié... T'as du mal à le lâcher. Enfin, voilà, je suis un peu dans ce registre-là.
Et on a entendu aussi, des fois, ça sécurise les parents. C'est-à-dire que très souvent, l'entrée en sixième, d'ailleurs, il le dit bien, hein, il est en sixième, ils sont que 2 sur 30 à ne pas avoir de téléphone, avec des parents bobos. c'est les parents qui vont offrir le téléphone à leurs enfants. Pour eux se sécuriser, je pourrais t'appeler quand tu vas prendre le bus, voilà, c'est comme si cette autonomie ne pouvait pas se faire sans portable.
Et on revient un peu sur l'objet transitionnel, mais peut-être du parent. Pour le coup, effectivement, les parents souvent très angoissés par la grande école, enfin le grand saut, cette autonomie acquise quelque part aussi, et qui avant était tout à fait normal, où on s'en inquiétait pas qu'on s'en inquiétait pas du tout, mais en tout cas on n'avait pas besoin de téléphone pour que l'enfant aille au collège, quoi.
Absolument. Comment on faisait avant?
Voilà.
Eh ben, on était plus libre. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que parfois ça prend des proportions un peu big mother ou father is watching you. Et là aussi, il faut doucement essayer de mettre des limites et de trouver la bonne distance. Parce qu'effectivement, quand on devient adolescent, on a aussi besoin de pas être constamment sous le regard de l'adulte et sous sa surveillance, justement, pour grandir, évoluer et devenir autonome.
Voilà. Alors, grandir, attention. Grandir, c'est quand même c'est faire seul, hein? Donc, si on les laisse jamais faire seuls, expérimenter des choses, ils vont pas pouvoir grandir. Et après, ça peut créer un certain nombre d'autres problèmes ou aussi un désintérêt, un désengagement sur d'autres plans. Hein. Si on peut jamais expérimenter l'autonomie, si on peut pas grandir, on peut pas aussi apprendre, parce que si on apprend, c'est aussi apprendre à faire seul. Et du coup, on grandit pas et finalement, l'enfant, on les trouve un petit peu à l'arrêt, en pause comme ça, parce que je peux pas grandir, je dois pas grandir, quoi. Donc voilà, c'est des questions évidemment auxquelles on réfléchit nous en tant que professionnels et qui sont pas forcément très conscients ou très élaborés chez les parents, mais ce qui est normal aussi. Mais c'est vrai qu'il faut trouver ce juste milieu de l'utilisation, de surveillance entre guillemets, et quand même leur laisser aussi de l'espace pour expérimenter leur autonomie.
Un dernier petit conseil peut-être pour ses parents. Moi, si je devais dire quelque chose, il faut essayer de s'intéresser à ce qu'ils regardent, même si ça nous semble totalement étrange et inintéressant, enfin, ou si on a d'autres choses à faire, quand même, de passer un tout petit peu de temps pour voir ce que chacun fait de son écran. Et d'ailleurs, les adolescents sont très contents de nous montrer ce qu'ils font, y compris sur TikTok. Voilà. Enfin, ils nous en montrent qu'une partie, sûrement. Hein. Mais voilà. Pour la plupart, ils sont quand même heureux de partager quelque chose. Et puis, si vous n'arrivez pas à les contacter, vous faites comme moi, vous envoyez un SMS à votre fils, on mange. Merci Anne-Maric. Un petit mot, un petit conseil?
Je reviens sur l'éducation, tout simplement. Voilà. Partager, éduquer et essayer d'échanger autour de tout ça.
Merci à toi, Béatrice.
Tout à fait. Je reviens aussi sur la bonne distance et sur le fait que les écrans, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. On peut y trouver le meilleur et le pire. Et que donc, effectivement, il faut continuer à dialoguer avec son enfant, à s'intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il fait, comme tu dis, Laurence.
Voilà, restons vigilants. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce conseil de famille consacré aux écrans. Merci à Anne de Radio Lodève. Je vous rappelle que cette émission sera diffusée le dernier vendredi du mois à 17h, rediffusée le lendemain samedi à 13h. Au revoir à tous.
Au revoir.